Radio Rythme Bleu, il est 17h46, Info Soir, c'est avec vous, Gilles Ménage.
L'interdiction de vente d'alcool partiellement levée à partir de la semaine prochaine, elle sera de nouveau possible chez les cavistes et dans les grandes surfaces, mais en quantité limitée. Demain, 15 août, est un jour férié pour la fête de l'Assomption, mais la crise n'a pas permis l'organisation du traditionnel pèlerinage de la Conception. Une nouvelle église incendiée, cette fois à Poindimier, incendie criminel qui s'est produit cette nuit vers 4h du matin et qui a partiellement détruit l'église de Thiers. Le RSMA sur le terrain à Rivière-Salée, les volontaires ont déménagé le mobilier récupérable du lycée Petro à Titi vers l'école de Vambèze pour permettre la rentrée de certains élèves. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Demain, 15 août, est donc un jour férié pour la fête de l'Assomption, une fête catholique qui célèbre la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie, c'est aussi la fête patronale du diocèse de Nouméa. Et elle est marquée habituellement par le traditionnel pèlerinage de la Conception qui réunit des milliers de fidèles. Mais cette année, à cause de la situation insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, il est impossible de rassembler des grandes foules. Et le diocèse a donc renoncé à organiser ce pèlerinage de la Conception. Chaque paroisse célébrera la fête de l'Assomption en fonction de ses possibilités. Une fête dont l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Calvet, nous rappelle la signification.
Alors l'Assomption, on célèbre ce qui est la réussite des œuvres du Seigneur, c'est-à-dire que parmi toutes les créatures, celle qui est la merveille de l'Assomption, c'est Marie qui a été emportée au ciel avec son âme et son corps, de sorte qu'elle n'a pas vu la corruption, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été mise au tombeau, mais qu'elle a partagé tout de suite la vie éternelle avec Jésus le Christ, le Sauveur de toute l'humanité. Et en ce sens, elle est pour nous comme le prototype, comme l'exemple de ce à quoi nous sommes tous appelés.
Le 15 août est une fête essentielle dans le calendrier catholique et elle l'est d'autant plus en Nouvelle-Calédonie dont c'est la fête patronale, rappelle Monseigneur Calvet.
La fête de l'Assomption, c'est bien sûr la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge, une fête chrétienne très importante, mais pour le diocèse de Nouméa, c'est la fête patronale du diocèse. C'est-à-dire que depuis que le vicariat de Nouvelle-Calédonie a été transformé en diocèse, c'était en 1966 après le concile à l'époque de Monseigneur Martin, l'archidiocèse de Nouméa a été mis sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption.
La fête de l'Assomption sera donc célébrée par une messe demain dans toutes les paroisses, mais il y aura peu de rassemblements. À l'église Saint-Jean-Baptiste de la Vallée des Colons, une journée de prière sera organisée à partir de 8h30 avec la célébration de la messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement et de la récitation du rosaire. Une journée consacrée à la paix, souligne le diacre Nissier, responsable de l'organisation.
Nous avons véritablement besoin de temps de prière. Le mois dernier, nous avons organisé une journée de prière pour la paix et beaucoup de jeunes m'ont demandé si on pouvait pas renouveler. Et je crois que c'est une belle opportunité, la fête de notre maman du ciel, d'invoquer son intercession pour le don de la paix et de la fraternité pour l'humanité et en particulier pour la Nouvelle-Calédonie dont nous avons tant besoin. Donc les jeunes animeront le rosaire et animeront bien sûr les chants. Nous serons en communion de prière. C'est un jour qui nous est proposé, qui nous est donné pour nous tourner vers le ciel par l'intercession de notre maman du ciel.
Une journée de prière sera également organisée à l'église de la Conception. À défaut de pèlerinage, une veillée mariale a lieu depuis le début de l'après-midi. Demain, la messe sera célébrée à 9h, suivie d'une collation de l'amitié. Ce jeudi 15 août est donc un jour férié, Radio Rythme Bleu adapte ses horaires. Le premier rendez-vous d'information aura lieu à 6h30 et les matinales vous seront présentées à 7h. Il n'y aura pas de billets d'humeur, pas d'invité du matin et l'émission Vous avez un avis fait également relâche. L'édition de la mi-journée vous sera présentée à midi et il n'y aura pas de jeudi de l'économie. On peut rappeler que le 15 août est férié en France depuis le vœu de Louis XIII qui en 1638 avait consacré son royaume à la Sainte Vierge après qu'elle lui ait accordé la grâce d'avoir un héritier pour lui succéder sur le trône de France, en l'occurrence le futur Louis XIV. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat indique cet après-midi que la situation sécuritaire continue de s'améliorer sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la situation à la tribu de Saint-Louis, où les actions de la Gendarmerie nationale se poursuivent afin de permettre de rouvrir la route provinciale 1 dans les meilleurs délais. Et à l'exception de plusieurs faits localisés, le haut-commissaire condamne notamment la tentative d'incendie de l'église de Poindimier et la prise à partie d'automobilistes à Poya. Il précise qu'à chaque fois, la Gendarmerie nationale est pleinement mobilisée pour rétablir la sécurité dans les meilleurs délais et que les forces de l'ordre ont à ce jour procédé à 2459 interpellations, 1331 en zone police et 1128 en zone gendarmerie. Dans ces conditions et afin d'accompagner le retour à une vie normale, le haut-commissaire a décidé, Jean-François Bonnin, d'assouplir certaines mesures d'ordre administratif et notamment concernant la vente d'alcool.
Oui, l'interdiction de vente d'alcool va être légèrement assouplie à partir de la semaine prochaine. La décision a été prise aujourd'hui par le haut-commissaire et elle entrera en vigueur à partir de lundi prochain, le 19 août. Et dans un premier temps, jusqu'au 8 septembre, la vente d'alcool à emporter sera autorisée chez les cavistes et dans les grandes surfaces du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à midi. Elle sera toutefois limitée à 2 litres par personne pour l'alcool qui n'excède pas les 22 degrés et 1 litre par personne pour l'alcool fort. Malgré ces restrictions, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les cavistes, nous a dit ce gérant d'une cave à vin.
Un peu une petite aubaine quand même, dès qu'on se sentait un petit peu abandonné et que ça faisait plus d'un mois qu'on se trouvait sans travail et sans réel avenir en tout cas, vu que c'était resté très flou. Donc non, pour nous on est assez contents de ça. Pour les limites, de toute façon on savait que ça devait arriver, donc si ma mémoire est bonne, de toute façon c'est 2 litres par personne en restant que sur du vin et je crois que c'est 1 litre de bouteille maximum après pour plus de 22%. Je vais enfin pouvoir recommencer à travailler, vu que ces derniers temps, même avec la première réouverture, on n'a pas eu le droit au chômage partiel, étant donné qu'on a fait un chiffre plus élevé que l'année dernière. Et donc moi, j'attendais beaucoup et je voyais surtout mon compte fondre jour après jour, en fait. Hein. Donc justement, moi, je suis très content de cette petite réouverture, de cette rentrée d'argent, du coup.
Alors, signalons et rappelons que cette vente d'alcool à emporter sera autorisée chez les cavistes et dans les grandes surfaces à partir de lundi prochain. En revanche, la livraison d'alcool demeure interdite et ces mesures d'assouplissement feront l'objet de contrôles renforcés, précise le Haut-Commissariat qui indique que tout abus conduira nécessairement à une nouvelle adaptation. Parmi les autres mesures, on retiendra que le port et le transport d'armes restent interdits sur l'ensemble du territoire. Le couvre-feu est aussi maintenu de 22h à 5h du matin. Il faut aussi rappeler que la vente au détail et le transport de carburant, produits combustibles ou corrosifs dans tout récipient transportable comme les jerrycans ou les bidons restent interdites sur l'ensemble du territoire jusqu'au 26 août. Par dérogation seulement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux services communaux ni au secteur professionnel de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat et aux patentés.
Le Haut-Commissariat affirme donc que la situation sécuritaire continue de s'améliorer sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la situation à la tribu de Saint-Louis. Une analyse que faisait ce matin Théophile Delassus, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire qui était notre invité à 7h30. Il déclare que la situation de l'ordre public n'est pas normalisée, mais qu'elle est en voie de stabilisation. Il tient d'ailleurs à rendre hommage aux forces de sécurité intérieure qui interviennent dans des conditions souvent difficiles. Et il affirme que l'État apporte une réponse de grande fermeté aux émeutiers. Théophile Delassus a également été interrogé sur la date du 24 septembre. L'État la considère-t-il comme une date à risque ?
Le 24 septembre, d'abord, il faut le rappeler, c'est le jour de la fête de la citoyenneté. Et c'est donc à ce titre une date importante pour l'État, une date importante pour les Calédoniens, une date qui est censée rassembler. Et si certains veulent utiliser cette date pour diviser, pour attaquer, la réponse de l'État sera extrêmement ferme. Et donc là-dessus, bien évidemment, cette date du 24 septembre est préparée attentivement, comme d'autres échéances d'ordre public, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de nouveaux troubles à l'ordre public et permettre à ce qui est une fête d'être une fête, mais pas avec des troubles à l'ordre public. Mais là-dessus, je veux rassurer nos concitoyens. D'abord, le nombre de forces est important, il va augmenter, vous le disiez, l'effet de surprise n'est plus là, et donc aujourd'hui, un 13 mai n'est plus possible en Nouvelle-Calédonie. Nous ne pouvons pas avoir un nouveau 13 mai en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous assurer que la volonté du haut-commissaire, elle est bien de tout faire pour que l'ordre public soit assuré sur l'ensemble du territoire. Il y a encore un certain nombre de choses sur lesquelles on doit s'améliorer, on en a bien conscience, on a ce sujet de Saint-Louis qui nous préoccupe au plus haut point, qui fait l'objet d'une bonne partie de nos intentions, mais la détermination est complète de la part des policiers et des gendarmes.
Une interview du directeur de cabinet du haut-commissaire retrouvée en audio et vidéo sur notre site internet.
Vous écoutez Info Soir, il est 17h55.
Après les incendies des églises de Saint-Louis, de Thuot, de l'île des Pins et de Thouault, un nouvel édifice religieux a été touché la nuit dernière par les émeutiers. D'importantes dégradations ont en effet été commises dans l'église de Thiers à Point-d'Imier. Tôt ce matin, vers 4h, un ou plusieurs individus ont mis le feu à la sacristie. La chapelle et l'autel ont été également touchés. Mais la structure ne s'est pas effondrée. Les pompiers ont pu intervenir à temps. Une réaction politique, le président de l'UPM, Victor Tutugoro, condamne avec la plus grande vigueur l'incendie perpétré cette nuit contre l'église de Point-d'Imier. On écoute sa réaction.
C'est déplorable ce qui s'est passé cette nuit, à savoir donc l'incendie de l'édifice religieux, l'église de Thiers. Il faut savoir que l'église de Thiers, c'est une des très vieilles édifices construits au début des années 1900, si ce n'est pas fin d'année 1800. C'est un patrimoine incontournable de la côte est du pays. Et donc, on a du mal à comprendre ces actes depuis quelque temps qui s'en prennent aux édifices religieux, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Thio, que ce soit à Vao, que ce soit passé à Kongouma, que ce soit maintenant sur Thier. On a du mal à comprendre et on se demande quel est le message que les incendiaires pensent faire passer.
Victor Toutougourou qui, dans un communiqué, affirme souhaiter que les responsables de ces incendies soient traduits devant la justice. Le président de l'UPM, dont le comité central se réunit d'ailleurs samedi le 17 août à la tribu de Hounjo à Vaud, une réunion en prévision du prochain congrès du FLNKS et dans la perspective de la reprise des négociations sur l'avenir institutionnel. Quoi qu'il en soit, l'annonce de ce nouvel incendie a provoqué une nouvelle vague d'indignation dans la communauté catholique. Des fidèles s'inquiètent forcément pour leur église. C'est pourquoi, depuis le début des émeutes, certains paroissiens se sont organisés pour surveiller les édifices religieux. C'est le cas à l'église de l'Espérance, au Haut-Magenta. Un dispositif qui s'est affiné avec le temps et qui a été renforcé après les destructions des églises de Saint-Louis et de l'île des Pins. Sabrina Niutupea, référente du groupe de jeunes de l'Espérance.
On a mis en place une surveillance rapprochée avec des hommes principalement pour la nuit et en journée des mamans, des femmes, des personnes disponibles en journée. Ça nous permet aussi de revoir certaines choses ou d'éventuellement travailler sur d'autres projets à venir ou entretenir l'église, voilà, passer un coup de balai, arroser les fleurs. Donc on a toujours quelque chose à faire. C'est important, pas que pour le bâtiment lui-même. On le fait parce que c'est la suite des événements, mais on le fait aussi parce que c'est pour dire aussi que même s'il y a tout ce chaos-là, ben c'est aussi se porter ce message d'espérance. Mais il est de notre devoir aussi de protéger notre foi. Donc moi, je ne vois pas que l'église, que le bâtiment, mais je vois notre foi. Mais si tout le monde perd la foi, eh bien, on a tout perdu.
Dans le Haut-Magenta, quatre groupes se succèdent pour surveiller l'église. Chaque paroissien vigilant passe en moyenne 2 nuits par semaine sur place. Ce sont donc les hommes qui sont chargés d'éviter toute intrusion la nuit. Cali est l'un des référents.
On fait des rondes, quoi. Ben, comme là, ici, on a l'église et puis on a les salles en bas. Ça fait que d'abord on tourne, je sais pas, tous les 2 heures, quoi. Sinon, on se partage. Par exemple, si on est 4, il y a 2 qui viennent rester en bas et puis 2 en haut, comme ça. Les premières semaines, on a l'impression que c'était la guerre, quoi. Là, maintenant, c'est calme, quoi. Parce que bon, maintenant, il y a la police qui sont toujours là, qui tournent. Et puis même, ils viennent aussi se garer en face du fourgon. Je pensais pas qu'un jour, ça allait arriver... ces choses-là, ici, en Calédonie, puis surtout, ici, c'est beaucoup la prière, qu'importe les religions, mais quand j'entends les autres églises qui sont en feu aussi, je sais pas qu'est-ce qui passe dans leur tête pour toucher à ça, quoi.
Aujourd'hui, les fidèles de la paroisse, et notamment les jeunes, sont d'ailleurs réunis pour un temps de prière pour la paix, avec une pensée toute particulière pour les églises qui ont été saccagées. À Poya, notez-le, des entraves à la circulation de nouveau signalées cet après-midi. Des individus ont caillassé des véhicules sur la RT1. Depuis, la circulation est coupée. Les automobilistes doivent attendre dans le village. Les gendarmes sont sur place et la circulation ne sera pas ouverte tant que l'axe ne sera pas de nouveau sécurisé. Il est pile 18h. Dans un instant, la suite de l'actualité.
Venez découvrir le premier salon des artisans calédoniens à la Maison des Artisans de Nouville du jeudi 15 au dimanche 18 août. Plus de 80 exposants vous attendent. Sculptures, maroquinerie, bijoux, mais aussi mobilier, décoration, plantes vertes. N'oubliez pas de jouer au grand jeu Bluescope, partenaire officiel du salon, pour gagner un lot de jardinières d'une valeur de 50 700 francs TTC. Le premier salon des artisans calédoniens, c'est du 15 au 18 août à la Maison des Artisans de Nouville et l'entrée est gratuite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Info soir, Gilles Ménage.
Le dispositif de navette maritime entre Nouméa et le Mont d'Or Sud renforcé à partir de lundi prochain avec des rotations supplémentaires de 2 gros navires déjà engagés, le Maridé et le Coral Palme. Les habitants du Mont d'Or bloqués par le verrou de la RP1 à hauteur de Saint-Louis disposeront ainsi de près de 220 places supplémentaires le matin au départ du Vallon d'Or et le soir de Port-Moselle. Les précisions de Richard Monnier, chargé d'études à la direction de l'aménagement, de l'équipement et des moyens à la province sud.
Ces rotations supplémentaires des, on va dire, 2 grands bateaux capacitaires qui sont engagés, c'est-à-dire le Maridé et le Coral Palme. pour lesquels on va doubler les rotations le matin et l'après-midi. Ces deux gros bateaux, ils vont faire 4 allers-retours dans la journée, chacun. Donc ça fait 2 chacun le matin et 2 chacun l'après-midi. Le Maridé, donc, il a une capacité de 130 passagers, le Coral Pam de 96 passagers. Les taxi-boats, on a des conventions avec 17 prestataires qui ont 14 bateaux et à peu près, on va dire, tous les jours, il y a une douzaine qui sont engagés sur les liaisons Moselle-Valondeur et également sur les liaisons Valondeur-Boulary.
Un prestataire supplémentaire pourrait encore venir ajouter 30 places à ces rotations dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Rappelons que l'État s'était engagé la semaine dernière à soutenir financièrement la province sud et la commune du Mont-d'Or pour le transport de personnes et de fret entre Port-Moselle et le Vallon d'Or. Les dépenses déjà engagées par les deux collectivités vont être remboursées. L'État a également engagé des moyens pour permettre l'augmentation du flux des passagers, des voitures et du ravitaillement. Les volontaires du RSMA sur le terrain aujourd'hui à Rivière-Salée. Une compagnie de Koumac a pris en charge le déménagement du mobilier récupérable du lycée Petro Atiti, fermé depuis le 13 mai, et qui a été totalement dévasté par les émeutiers. Murs tagués, vitres brisées, ateliers incendiés, le spectacle est affligeant. Mais le personnel s'est mobilisé pour un grand nettoyage, même si les stigmates des émeutes sont encore visibles partout. Le proviseur du lycée, Jean-Luc Barnier, était présent au plus fort de l'insurrection, il raconte.
Le lycée a fermé le 13 mai au soir. On avait encore quelques internes qui étaient là. Donc le 14 au matin, les internes ont été évacués. Les premières nuits, il y avait peu de choses qui se passaient. Il y a eu 2-3 portes qui étaient fracturées, des petites visites, mais peu de choses. Et en fait, ça a basculé vers la nuit du 16 au 17, où il y a eu les premiers incendies. Et à partir du 18, les émeutiers avaient fait leur quartier général dans le lycée. Donc c'est à partir de là qu'on a vu les choses se dégrader. Les vitres qui étaient cassées, les départs de feu. On a eu une vingtaine de départs de feu et puis surtout tout saccagé.
Les militaires du RSMA là, sont ici, c'est des jeunes pour la plupart, des jeunes du territoire qui viennent vous donner un coup de main. Ça a quelle importance ?
C'est capital puisqu'on ne dispose plus des moyens logistiques pour pouvoir assurer ce transport. Donc on a récupéré l'école Morissette de Vambé, mais les salles n'ont pas de table, n'ont pas de chaises. Donc c'est le matériel qu'on récupère ici qu'on transporte. Bon, nous, avec nos agents, il nous aurait fallu certainement plusieurs semaines pour mener tout ça à bien, alors que là, en quelques heures, ça va pouvoir être traité avec la logistique du RSMA.
Et depuis ce matin, la compagnie du RSMA de Koumac récupère ce qui peut l'être après le tri effectué par le personnel et déménage l'ensemble en direction de l'école Morissette de Vambé de Rivière-Salée qui va accueillir une partie des 780 élèves du lycée Atiti. Une mission qui a du sens pour tous les volontaires du RSMA, estime le lieutenant-colonel Mounou. Il est chef de détachement du RSMA à Nouméa.
La journée d'aujourd'hui est dédiée à un transfert de mobilier. Ça sera une journée bien remplie pour les soldats qui sont venus là, pour qui cette mission a du sens, puisqu'ils ont été scolarisés aussi. Ils sont peut-être touchés directement par des cousins, par de la famille qui ont besoin de retourner à l'école. Pas ici, visiblement, mais probablement ailleurs.
Et ce matin, en effet, c'est au son des chants de marée que les jeunes du RSMA, encadrés par l'adjudant Jean-Luc, ont rempli leur mission avec une détermination particulière.
Là, vous avez la compagnie de commandement de logistique et d'instruction qui est présente, de Koumac. Donc, c'est que des volontaires techniciens qui sont diplômés. Ça va du CAP à la licence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certains d'entre eux qui sont passés par ce lycée et qui ont eu une belle expérience d'études et qui voulaient perpétuer cela de par cette mobilisation pour que les autres puissent suivre un peu le même chemin qu'eux.
Intervention du RSMA salutaire, donc, car elle permet aux élèves qui n'avaient pas de solution pour la rentrée d'être finalement scolarisés dans une école du quartier. Selon le gouvernement, le lycée Atiti ne devrait, lui, rouvrir que très partiellement à la rentrée 2025. Les travaux nécessaires à sa restauration complète ont été évalués à 1 milliard de francs. Quoi qu'il arrive, elle ne pourrait être achevée avant la rentrée 2026. Et puis les internats des établissements de la DEC sont toujours fermés. Une situation qui inquiète les institutions, mais aussi les parents d'élèves. Michael Juneski, l'APE du lycée Blaise Pascal, évoque un drame humain.
Par communiqué interposé, la DEC a répondu hier aux institutions pour rappeler sa situation financière compliquée. Malgré l'aide des collectivités, la DEC demandait déjà 250 millions de francs pour boucler l'exercice 2024. Des difficultés amplifiées par les émeutes de la CCAT, l'enseignement catholique a prélevé 40 millions dans sa trésorerie pour réparer les dégradations dont certains de ses établissements ont été victimes. En conséquence, la DEC a eu recours au chômage partiel pour ses 400 195 salariés, mais laisse également pour le moment ses internats fermés. Pour Sonia Lutringer, présidente de l'APE du lycée Blaise Pascal, c'est une difficulté supplémentaire qui arrive en plein milieu de l'année scolaire.
L'internat du lycée Blaise Pascal accueille 80 élèves. Depuis la reprise des cours en juin dernier, une trentaine ont pu revenir au lycée en trouvant un plan B, mais ce n'est pas le cas pour cinquantaine d'autres élèves. Donc c'est sûr que cette information qui est parvenue aux parents une semaine avant la reprise des cours n'a pas été une bonne nouvelle, car le lycée avait communiqué sur la réouverture de l'internat. Donc il y avait une véritable lueur d'espoir de récupérer tous les élèves au lycée. Hein. Donc c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle et on ne peut que déplorer cette décision de tenir les portes de l'internat fermées.
Les élèves les plus touchés sont principalement ceux venant de Brousse qui n'ont pas d'endroit où loger sur Nouméa. C'est pour cela que l'APE a lancé un appel à la solidarité à d'autres parents qui pourraient faire office de famille d'accueil.
Nous avons adressé un message à tous les parents d'élèves du lycée Blaise Pascal pour leur demander si parmi eux, certains ne pouvaient pas accueillir des élèves de l'internat. Donc nous avons créé un tableau qui est alimenté par l'APE au fur et à mesure des réponses qu'on peut avoir. Nous avons créé un lien qui est uniquement visible des parents d'élèves de l'internat pour les mettre en relation avec les personnes qui pourraient accueillir un élève et lui permettre de retourner dans les bancs du lycée. Ils peuvent envoyer un mail à l'APE du lycée Blaise Pascal qui est la suivante, apelblaisepascal@gmail.com.
Sonia Lutringer, la présidente de l'APE de Blaise Pascal, devait avoir des rendez-vous avec l'ADEC et les institutions pour voir quelles solutions peuvent permettre la réouverture des internats.
Le collège de Tuban, lui, va rouvrir ses portes la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, fermé au mois de juin dernier en raison des troubles quotidiens qui ont secoué le quartier. L'établissement pourra à nouveau accueillir les élèves à partir du 20 août. Félix, un habitant du quartier de Tuban, se félicite de voir ses deux enfants scolarisés dans ce collège reprendre le chemin de l'école. Un soulagement qui s'accompagne toutefois de quelques craintes.
Ça fait quand même quelques semaines qu'on attend que ce collège réouvre. Aujourd'hui, on voit que le quartier est en train d'être nettoyé par les équipes de la mairie. Et on espère vraiment que les forces de l'ordre resteront en faction devant le collège. C'est-à-dire pas uniquement à l'arrivée des élèves et à la sortie. Sinon, on est vraiment ravis en tout cas que les enfants reprennent la vie et reprennent le chemin du collège. La seule petite différence par rapport à avant, il est clair, ce sera que pour le moment, en tout cas, on déposera les enfants en voiture. Parce que même si on est à proximité du collège, on n'est pas encore assez confiant pour les laisser revenir à pied au collège et revenir à pied à la maison.
Et depuis la fermeture du collège, le gouvernement a réuni tous les interlocuteurs du quartier, notamment pour répondre aux inquiétudes des parents quant à la sécurisation de l'établissement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et c'est notre question du jour. Approuvez-vous la réouverture à la rentrée le 19 août du collège de Tuban? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Je vous rappelle la réponse à notre question d'hier, 91% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le succès des Jeux Olympiques de Paris aura des répercussions sur l'image de la France sur la scène internationale. Ils sont 9% à être d'un avis contraire. Avant de marquer une première pause, retour à l'actualité avec vous Jean-François Bodin et des précisions apportées par le procureur de la République Yves Dupas sur l'incendie de l'église de Poindimier.
Oui, le procureur de la République indique d'abord dans un communiqué qu'une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie de cette église du Sacré-Cœur de Thiers à Poindimier. Les faits se sont produits en toute fin de nuit vers 14h30. L'alerte a été donnée par une personne qui passait à proximité de l'église et qui avait aperçu d'importantes fumées s'échapper du bâtiment de l'église. Les premières constatations faites sur les lieux indiquent que le procureur de la République ont permis d'établir la présence dans l'église d'au moins 7 départs de feu, alimentés notamment avec des tissus ou des rideaux trouvés sur place. La toiture et les murs de l'église ne semblent pas avoir été impactés par l'incendie, mais la chapelle intérieure, la sacristie et une partie de l'autel sont gravement endommagés. Du mobilier et des vêtements ont été aussi détruits par le feu. Les auteurs seraient entrés sans infraction dans l'église, indique le procureur de la République, par une porte latérale qui n'était jamais fermée à clé, même la nuit. Et heureusement, l'intervention rapide des pompiers a incontestablement permis de limiter l'ampleur des dégâts. Les enquêteurs et le parquet, écrit le procureur, procureur de la République, entendent déployer tous les moyens nécessaires à l'identification et l'interpellation des auteurs de ces faits intolérables qui ont provoqué, souligne-t-il, un fort retentissement au sein de la population, à Poindimier bien sûr, mais aussi sur l'ensemble du territoire, d'autant que d'autres édifices religieux, les églises de Vao, de Saint-Louis, de Touhot et le temple bouddhiste de Nouméa ont fait l'objet d'agissements criminels similaires. D'ores et déjà, les gendarmes ont procédé au recueil de plusieurs témoignages et les techniciens d'identification criminelle sont sur place pour relever tous les prélèvements utiles dans le domaine de la police technique et scientifique. Le procureur de la République rappelle que ce délit de détérioration ou de destruction volontaire par incendie ou moyen dangereux pour les personnes est puni par la peine de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros, c'est-à-dire 18 millions de francs.
Merci Jean-François. On va marquer une nouvelle pause de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Gilles Ménage.
Et on évoque la situation du tourisme dans ce journal. Évidemment, pendant cette période de crise, les professionnels sont très durement touchés. Mais en province sud, Michael, un léger retour d'activité se ressent actuellement.
Évidemment, on ne crée pas victoire dans le secteur après les graves conséquences des derniers mois. Mais pour ces vacances scolaires et cette semaine du 15 août, et de manière générale, avec le calme relatif et les conditions de sécurité rétablies selon évidemment les zones sur les axes routiers en province sud, eh bien des prestataires touristiques ont été contactés pour relancer leurs activités, principalement sur la côte ouest. Des structures qui tentent de sortir la tête de l'eau, par exemple à Bouraille, où d'habitude cette période rime avec la grande foire de la commune. Écoutez le témoignage de Thérèse de l'hôtel El Cantara à La Roche-Percée.
Je comprends les gens qui ne se déplacent pas et puis c'est assez calme pour nous. La semaine dernière, c'était le calme plat. Personne n'a bougé. Pour les vacances, on n'aurait pas dit que c'était les vacances scolaires. Ça change pour cette semaine. C'est un ordre là cette semaine, mettons, de 50% pour l'hébergement. Non, c'est d'habitude, on est complet à cette période. Parce qu'il y a la foire de Bouraille, alors on est occupé par ça. C'est compliqué, oui.
Un léger regain d'activité durant ces vacances, constaté également par Marion Barthes, responsable marketing chez Sud Tourisme.
On reste positif. Il y a eu quand même pas mal de réservations. Les personnes ont recommencé en quelque sorte à bouger, à ressortir un petit peu. On a eu des retours de différents gîtes, par exemple, des activités qui ont effectivement eu du succès pendant ces vacances. Donc, c'est plutôt positif. Il y a eu une très, très belle fréquentation au niveau du parc provincial des Grandes Fougères, avec notamment la réouverture de l'activité Acrobranche. Beaucoup, beaucoup de succès. Également, pas mal de fréquentation au niveau du parc provincial zoologique et forestier. À Nouméa, on va voir pour l'après, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt encourageant.
Pour celles et ceux qui souhaitent encore organiser des vacances, ça se prépare dans cette période compliquée.
Tout à fait. Donc, Sud Tourisme, on a créé une page dédiée sur notre site internet qui permet en fait de référencer toutes les offres spéciales, actualités, événements, alors surtout sur la période des vacances scolaires, mais pour tout le mois d'août. On l'alimente vraiment quotidiennement. On la met à jour en fonction des retours des différents prestataires touristiques. L'idée, c'est voilà, qu'on puisse mettre en avant tout ce qui est possible de faire aujourd'hui sur tous les bassins de la province sud. Donc, on invite vraiment les prestataires touristiques à nous envoyer leurs offres et voilà, pour augmenter la visibilité de tout ce qu'on peut faire dans notre belle province.
Une activité touristique qui reprend légèrement durant ces vacances scolaires en province sud, avec principalement les familles nouméennes, mais également les militaires en permission, représentant eux aussi une commande d'activité touristique non négligeable pour les prestataires. Bien entendu, le constat est tout autre pour la province nord et la province des îles, où les conditions sont très différentes pour envisager une reprise réelle de l'activité.
Merci Mickaël. Soutenir les artisans qui rencontrent eux aussi des difficultés économiques depuis le 13 mai, c'est la volonté de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui organise à Nouville à partir de demain et pour 4 jours son salon des artisans calédoniens. Une manière de mettre en avant et de soutenir le secteur de l'artisanat, nous a dit la présidente de la CMA, qui était en direct dans le journal de la mi-journée hier, Elisabeth Rivière.
Pendant cette crise, les artisans ont été beaucoup touchés. Et là, il nous semblait important de pouvoir les ramener au contact d'une clientèle pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus la possibilité d'avoir des clients et d'amener aussi une certaine dynamique dans le monde économique, parce que ce salon est bien sûr ouvert en priorité à nos artisans, mais à l'ensemble du monde économique, pour permettre de redynamiser les choses et aussi pour les personnes de partager un moment de rencontre et d'échange.
Une manière de mettre en avant et de soutenir le secteur de l'artisanat. Ce salon répond à une forte attente des artisans, qui seront plus de 80 sur place à l'intérieur de la Maison des artisans, mais aussi en extérieur, et avec de nombreux métiers de l'artisanat représentés.
Normalement, au mois de juillet, nous avions le salon du jardinage. Compte tenu des événements, il n'a pas pu avoir lieu. Nous avons décidé de faire un mixte un petit peu de tous les métiers de l'artisanat. Dans différents secteurs, vous allez pouvoir retrouver des artisans dans le domaine de la construction, soit pour aménager votre intérieur, peut-être faire des travaux, dans des créateurs aussi, avec des produits, puisque tout l'artisanat d'art a été fortement touché, qu'il n'y a plus beaucoup de clientèle touristique, que certains avaient des stands à la gare maritime. Aujourd'hui, non plus de clientèle, donc nous les ramenons vers une clientèle.
Le salon des artisans calédoniens, qui est ouvert à partir de demain et jusqu'à samedi de 8h30 à 16h. Et dimanche, il sera ouvert de 8h30 à midi. La rentrée scolaire, c'est déjà dans 5 jours, mais en attendant et malgré la situation encore compliquée sur le territoire, les enfants continuent de profiter de leurs vacances, notamment Léo Fichot au musée maritime, qui leur propose un escape game.
Et oui, le musée propose toute l'année de nombreuses animations, effectivement des escape games ou jeux d'évasion en français. Tout se passe au rez-de-chaussée du musée maritime et dans la salle qui accueille l'exposition temporaire. Les enfants sont répartis par groupes de 4 et doivent résoudre des énigmes dans les 4 espaces. L'objectif, trouver le code du coffre-fort. Les explications de Coca, elle est animatrice et guide au musée.
La politique du musée maritime, c'est de proposer des animations qui sont à la fois ludiques et pédagogiques. Le but, c'est de retrouver la clé de la liberté et qui leur permette de pouvoir rentrer chez eux, parce qu'ils seront enfermés dans le musée et avec un esprit logique, de déduction, résoudre des énigmes, ils vont pouvoir ouvrir le coffre final pour pouvoir avoir la clé de leur liberté. Et c'est ça toujours la récompense de nous, guides et animatrices, animateurs, c'est de voir les enfants partir avec le sourire et puis en jouant tout en apprenant quelque chose.
Le sourire, les enfants l'ont pendant et après l'animation. Ils sont tous ravis d'être là au musée maritime, de s'amuser tout en découvrant. C'est le cas notamment de Jeanne, Julia et Clément qui sont venus entre amis.
Je suis venue ici pour faire un escape game avec mon ami. Parce que on fait un stage et tous les après-midi on se voit et du coup on a choisi de faire un escape game.
Moi je suis venue avec mes copines et un copain parce que c'est les vacances et du coup on se fait plaisir. J'ai fait du padel et du coup cet après-midi je suis venue au musée.
Je suis venue avec mes deux sœurs, mon cousin et ma tati.
Je vais découvrir.
Moi je suis déjà venue faire un escape game ici et du coup ce sera la 3e fois.
Moi c'est la première fois que je vais au musée.
Et pendant que les enfants sont entre de bonnes mains et s'amusent au musée, les parents, eux, peuvent souffler. Vanessa va en profiter pour prendre du temps pour elle.
Alors honnêtement, je ne pensais pas avoir de temps libre parce qu'en général, on les suit, même s'ils commencent à avoir 10-11 ans, ils sont un peu autonomes. Mais là, on nous a dit à l'accueil qu'ils étaient pris en charge et qu'on n'accompagnait pas le jeu. Donc on va peut-être pouvoir aller boire un petit café en face, en effet.
L'escape game pour enfants au musée maritime, ça se passe tous les mercredis à 13h30. Pensez quand même à réserver, les places sont limitées et c'est très vite complet.
Et pendant ce temps, l'école du cirque de Rivière-Salée a rouvert ses portes. Après 3 mois d'absence, la structure a repris ses ateliers en tenant compte bien sûr des contraintes de sécurité. C'est une aubaine pour les jeunes. Naïa, 15 ans, est inscrite dans cette école depuis 8 ans et participe au stage de vacances qui a lieu cette semaine.
Ce stage, pour moi, ça représente beaucoup car ça me permet de travailler des choses que je ne fais pas dans des cours habituels, comme le trapèze, qui n'est normalement pas ma spécialité. Et voilà, ça me permet de travailler la souplesse, la musculation, de me faire travailler des muscles que je ne travaille pas dans une spécialité qui est mienne, comme le machinois. Et ça fait vraiment découvrir plein de nouvelles choses et ça nous fait travailler les repères dans l'espace, donc tout ce qui est souplesse, musculation, la cohésion aussi quand on fait des figures à plusieurs, la coordination, enfin, plein de choses.
Plusieurs élèves n'ont pas pu s'inscrire à ce stage, malheureusement souvent par manque de moyens. Certains parents ne souhaitent pas non plus renvoyer leurs enfants à Rivière-Salée à cause des exactions. L'école du cirque pourrait donc fermer définitivement si des solutions ne sont pas trouvées rapidement, explique Stéphane Legrand, le directeur de l'école.
Il y a des parents qui n'ont pas envie d'amener leurs enfants dans le quartier de Rivière-Salée. On en a d'autres, mais malheureusement, les parents ont perdu leur emploi, donc pour payer les cotisations de cours, c'est plus possible. Et puis nous-mêmes, en reprenant, on a des frais supplémentaires, puisque en tant qu'employeur, on doit assurer la sécurité bien sûr des élèves, mais aussi du personnel de l'école de cirque. Alors déménager l'endroit, enfin je veux dire, tout est possible. Maintenant, je regarde un peu avec tout ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas non plus 10 000 locaux disponibles ailleurs, dans énormément endroit dit sécurisé. Au niveau des financements pour cette année, donc il nous restait une subvention qui n'était pas encore actée de la part de la ville de Nouméa. Donc là, on passerait au prochain conseil municipal le 27 août. Donc, et on attend les arbitrages par rapport à cette subvention pour savoir si on peut continuer ou malheureusement arrêter l'activité en fonction des crédits qui nous seront alloués, sachant que pour l'instant, on a une visibilité jusqu'au 2 octobre.
Et pour toute information sur l'école du cirque, vous pouvez contacter le 28 76 78, le 28 76 78. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
On vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, le temps restera souvent très nuageux à couvert ou voilé en altitude. Le ciel deviendra plus étoilé sur le nord. Des averses continueront d'intéresser l'est. Le vent d'est se rapproche de 20 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds sur la pointe nord. Les températures minimales varieront entre 19 et 22 degrés. Localement, 15 à 18 degrés, ce sera sur l'ouest et marée. Demain matin, les éclaircies se multiplieront avec l'évacuation des nuages d'altitude. Des cumulus circuleront encore et donneront quelques averses sur l'est, l'extrême sud ainsi qu'aux Loyautés. Le vent de secteur est faiblira entre 15 et 20 nœuds. Il sera souvent faible sur la façade de l'ouest, sauf en sortie de certaines vallées, Gilles.
Merci pour ces précisions, Nicolas. 18h23, la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.